gnose qui exista dans le christianisme, mais qui préexistait à celui-ci, comme elle préexista à l'islam. La concentration de la piété vécue et de la réflexion philosophique sur la personne de l'imam, élevé ainsi au rang d'un archétype, nous permet également de saisir l'unité qui persiste sous les diversifications du chiisme. Pour l'imamisme, cet archétype s'exemplifie sur terre en 12 personnes sacro-saintes, les saints imams, dont le dernier disparaît tout enfant, l'an 874 de notre ère, en déjouant la fureur des puissances acharnées à détruire sur terre le trésor spirituel de l'imamat. Il reparaîtra à la fin de ce cycle, inaugurant le règne d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Nous sommes maintenant dans la grande occultation, mais le 12e imam reste le seigneur invisible et présent de notre temps, celui qui, dans l'Iran de nos jours, ne cesse d'aimanter la dévotion intime de tout pieux chiite. Dès les premiers temps qui suivirent sa disparition au 9e et 10e siècle de notre ère, la pensée chiite commença à élaborer ses traditions propres et ses thèmes majeurs. Parmi ses principaux docteurs figurent des notabilités iraniennes, Kulaili, Imbabouye, Abu Ja'far Tusi, et ce n'est point un hasard. Il n'y a aucune relation, aucune raison de minimiser l'importance d'un tel fait. Les vicissitudes traversées par le petit groupe de fidèles chiites seront souvent très dures. Ils n'émergeront des tracas et des persécutions qu'avec l'avènement de la dynastie safavide en Iran au début du XVIe siècle. Ce nombre 12 que nous venons de relever ne résultait pas d'une constatation empirique. Et lui aussi est un nombre archétype, un chiffre symbolisant une totalité parfaite. C'est de la même manière qu'il faut entendre le chiffre 7 qui caractérise le chiisme ismaélien. Ces nombres expriment à la fois un rythme de la conscience et une loi cosmique. On désigne souvent pour cette raison les deux grandes branches du chiisme comme celle des duodécimains et celle des septimaniens. Ces derniers, ce sont les ismaéliens, chez qui le sens ésotérique du véritable islam est poussé beaucoup plus loin que dans l'imamisme. Ces chiites ismaéliens, que l'on a parfois désignés comme les templiers de l'islam, représentent en tout cas par excellence la gnose en islam. Mais contrairement à ce que l'on croit parfois, l'ismaélisme n'est nullement la création de Hassan et Sabah, pas plus que la réorganisation de l'ordre ismaélien en Iran par ses soins, lorsqu'il prit comme centre le château fort d'Alamout, ne consista à fonder un ordre d'assassins. Il y a là un mauvais calembour qui a traîné en Occident au long des siècles. Ce que nous en savons aujourd'hui devrait éviter aux publicistes hâtifs de se faire les complices inconscients de la propagande abbasside et épargner cet affront à la communauté ismaélienne encore existante de nos jours. L'ismaélisme doit son nom au jeune imam Ismaïl, mort prématurément vers 765, fils du 6e imam, Ja'far as-Sadr, l'une des plus grandes figures parmi les saints imams. C'est dans son entourage que s'élabora la théosophie du chiisme. Plusieurs de ses familiers avaient des relations suivies avec des non-musulmans, gnostiques, bardessaniens, manichéens, chrétiens nestoriens. C'est chez les plus fervents et les plus enthousiastes d'entre eux que se constitua ce que nous pouvons appeler le proto-ismaélisme. Une période obscure dure ensuite jusqu'à l'avènement des Fatimides au Caire en 909, et brusquement, nous voyons surgir des œuvres philosophiques considérables. Elles ont été gardées pendant des siècles dans le secret des bibliothèques ismaéliennes. Il n'y a qu'un petit nombre d'années que nous pouvons en étudier quelques-unes. Mais ici encore, nous relèverons que les noms des grands penseurs qui ont élaboré des synthèses aussi imposantes et originales que celles d'un Avicenne sont encore au 10e et 11e siècle des noms iraniens, Abu Yaqub Sejestani, Moayyad et Shirazi, Nasser et Khosrow, Hamid ad-Din Kermani, etc. Après le grand schisme consécutif à la mort de l'imam Mustansir Billah en 1094, c'est un ismaélisme réformé qui, grâce à la fondation d'Alamout, survécut autonome en Iran. Il se caractérise comme une religion de la résurrection et de salut personnel. Il ne fallut pas moins que la tempête mongole pour abattre l'organisation de ses commanderies en 1256, sans pouvoir pourtant l'arracher de la terre iranienne. L'ismaélisme y a survécu sous le manteau du soufisme. Il y eut dès lors interpénétration idéologique profonde entre l'un et l'autre. Ces brèves indications nous permettent d'entrevoir que la signification du chiisme pour l'Iran ne se sépare pas de sa signification pour l'histoire des religions en général. Il préserve en lui-même les marques de ce que furent les autres apports iraniens à cette quête éternelle qui s'exprime dans la conscience religieuse de l'humanité. Nous en avons relevé les connexions avec la gnose et l'idée même de l'imam avec les récurrents...